Dans cet élevage hors sol, dehors ça n'est pas là. Faut parer pour aller, disséler les pavés. Y'a pas de fumée sans feu, d'incendie sans incident. C'est un truc aussi louche que la merde que tu bouffes. Des plats d'ordures servis d'ardard à des dodus. Génération Coca-Cola, en totale immersion dans le caca-cola. Dois saper Colargol pour passer la cagoule. Faut qu'on se pousse les pompes qui nous laissent sans secousse. Dans ce monde sans rêve où tout crève, que ceux qui décident se suicident, ça fatifie. Laisse tomber des corps, hardcore, tout est mort. Dans ce monde sans rêve, où tout crève. Dans ce monde sans rêve, où tout crève. Que ceux qui décident se suicident, ça fera du vide. Laisse tomber des corps, hardcore, tout est mort. Dans ce monde sans rêve, où tout crève. Un monde toujours plus laid, détour des barres partout. Où tu croiseras jamais les barbares combés partout. J'ai pas raison, les paresseux sont ceux qui sont pour Laurence Parisot. Chie sur la France d'en haut. Chaîne automatisée, robot lobotomisé. Atomisé, c'est la misère en milieu ouvrier. Teaser, vivre à l'arrache, il se mettre à la race. Voilà ce qui reste tout presque aux jeunes de mon espèce. Mon stock de rimes boycott, ton fast stock et tes steaks. J'défonce ton McDo à la façon Mac, nos passes, nous ton marteau, gars, car il faut qu'on casse. Dans ce monde sans rêve, où tout crève. Que ceux qui décident se suicident, ça fera du vide. Laisse tomber des corps, hardcore, tout est mort. Dans ce monde sans rêve, où tout crève. Dans ce monde sans rêve, où tout crève. Que ceux qui décident se suicident, ça fera du vide. Laisse tomber des corps, hardcore, tout est mort. Dans ce monde sans rêve, où tout crève. On passe du taf, seuls les sous nous suffisent. Alors laisse-nous pratiquer cet audiomycide ciblé. J'arrache tes oreilles avec ma bouche pleine de merde. Un débat faux mède qui défend les fonds doux. Que ceux qui décident se suicident, ça fera du vide. Dans ce monde impossible que je suis sous psilocybe. Dans ce monde sans rêve où tout crève. Que ceux qui décident se suicident, ça fera du vide. Laisse tomber des corps, hardcore, tout est mort. Dans ce monde sans rêve où tout crève. Dans ce monde sans rêve où tout crève. Que ceux qui décident se suicident, ça fera du vide. Laisse tomber des corps, hardcore, tout est mort. Dans ce monde sans rêve où tout crève. crève.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui fait sa rentrée aujourd'hui, avec donc José en régie qui choisit les morceaux, je vous en parlerai. Sophie en face de moi, donc notre élément féminin rebelle. Et puis moi, Michel, vous avez l'habitude de mes lubies. Donc vous venez d'entendre le groupe Pizza avec 3 Z, c'est un duo breton. Le premier morceau s'intitule toujours d'ailleurs Lutte des classes, et le second, un peu plus rap, du rap breton j'imagine aussi, Un monde sans rêve. Voilà. Et donc ce soir nous vous présenterons, c'est exceptionnel, un livre qui a fait la une d'un grand quotidien national, passé du Colmao au Club Rotary, j'ai nommé Libération. Alors ne vous inquiétez pas, tout de suite j'entends vos cris. Ah ! Ce quotidien, parce que bon, ce quotidien jadis gauchiste aime encore éprouvé et partagé avec ses lecteurs frissons libertaires de révolte sans conséquence. Donc mais c'était bien en même temps que qu'ils en parlent, parce qu'il se trouve que ce livre est intéressant. Et ce livre, je maintenais toujours le mystère sur le nom, c'est Constellation. Sous-titré Trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle, et c'est l'œuvre d'un collectif, le collectif Mauvaise Troupe. C'est édité par L'Éclat et ça a été édité en mai dernier. Voilà, on l'avait sous la main, mais on n'avait pas eu trop le temps de le lire parce que c'est assez massif comme ouvrage, mais c'est bougrement intéressant. Alors, le collectif donc Mauvaise Troupe décrit cette œuvre comme un livre d'histoire, mais un livre d'histoire au pluriel. C'est-à-dire que c'est pas un livre de théorie révolutionnaire, c'est plutôt des récits de pratiques révolutionnaires et aussi leur analyse, parfois après coup, parfois à chaud. C'est un livre qui va regrouper des entretiens, des témoignages, des réflexions de personnes très très diverses, ayant trouvé aussi des solutions assez différentes à leur envie de révolte. Et j'ai l'impression, alors c'est peut-être mon interprétation, que ce bouquin affronte la question suivante, qui est de savoir que faire alors que nous sommes habités par un désir de révolution, mais que nous sommes en même temps pris dans un monde insupportable qui ne semble pas du tout prêt de s'améliorer. Un monde finalement où les grands récits révolutionnaires sont tous cassés la gueule, où plus personne, ou presque plus personne ne croit à un grand soir et à des lendemains qui chantent. Tous les grands récits révolutionnaires sont considérés quasiment comme des contes de fées ou des délires dangereux. Un monde aussi où toutes les grandes organisations populaires, qu'elles soient syndicales ou politiques, sur lesquelles reposaient ces espoirs révolutionnaires, se sont tellement institutionnalisées finalement qu'il ne faut plus rien en attendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là? Alors moi je trouve que c'est une assez bonne question, à laquelle on nous répond souvent par ou le désespoir, ou la résignation, ou une satisfaction mêlée de cynisme. Genre... ça n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, profitez-en les gars. Voilà, donc... vous ne trouverez pas dans Constellation une invitation à se calmer et enfin jouer le jeu capitaliste pour peupler son compte en banque et son portefeuille d'actions. Voilà. Donc Sophie est timide, elle n'ose pas parler encore, tout ça, et puis je monopolise le micro, mais vous inquiétez pas, vous l'entendrez. Ah Sophie, on t'entend.
Non, mais j'écoute bien.
Tu t'écoutes bien.
J'écoute très bien.
Elle est super bonne pour écouter. Alors, mais...
Ça s'entend pas trop, mais j'écoute vraiment très bien.
Voilà, donc... qu'est-ce qu'explore Constellation, donc ce livre édité aux éditions de L'Éclat? C'est des tentatives qui sont parfois très très hétérogènes, qui sont pas toujours cohérentes, enfin qui vont pas toujours dans la même direction. Plutôt, pour vivre en dehors, alors en dehors non, parce qu'on peut pas vraiment vivre en dehors, pour essayer de vivre à côté, ou tout contre, dans tous les sens du terme, le cadre capitaliste.
Vivre entre soi, en fait.
Alors, ça, c'est peut-être un des problèmes que d'ailleurs le livre aborde, que je trouve, parce qu'effectivement, il y a toujours après le problème de l'entre-soi, c'est-à-dire que si on s'isole, et puis qu'on se regroupe entre gens qui sont tous d'accord, On peut être très content pendant un moment, mais c'est pas pour autant qu'on va faire quelque chose.
Donc à son échelle, ça fonctionne très bien.
Ça
et
peut
fonctionner. À l'extérieur, advienne que pourra.
Voilà, ou advienne que pourri en l'occurrence.
Pourri.
Mais... mais en tout cas, c'est des gens qui... C'est ça que je trouve intéressant, c'est que ils me présentent que des gens qui... sans rien attendre des partis dits de gauche ou des grandes centrales syndicales, luttent pour soit libérer l'imagination de la colonisation commerciale, politique, éthique à laquelle on est souvent soumise, on est souvent soumis, et bien d'autres choses encore. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à... Ils élargissent le spectre de l'analyse, y compris au niveau de l'imaginaire, mais... qu'est-ce que c'est qu'un super-héros Pourquoi est-ce qu'on rêve d'être un super-héros? Est-ce qu'on rêve d'être un super-héros déjà? Donc ils interviewent des écrivains. Ils vont aussi
et des super-héros?
Et non, non, ils n'en ont pas trouvé, curieusement.
Dommage.
Mais on aimerait en trouver. Et enfin, peut-être pas, non, remarque. Hein. Quand on voit Captain America, on n'a pas forcément envie de le voir en réalité. Et donc, ils vont aussi interviewer, par exemple, des gens qui sont retournés vivre à la campagne et qui ont essayé de monter des espèces de collectifs agricoles. Ils vont interviewer des squatteurs de Grenoble ou d'ailleurs. C'est pas du tout un livre centré sur Paris. Et donc, vous allez trouver donc les récits, les réflexions de ces squatteurs, de communautés ayant collectivisé l'argent. Ou d'autres communautés qui ont mis en commun leurs compétences de cultivateurs, de bâtisseurs, mais aussi des groupes qui ont tenté de continuer la lutte après de grands mouvements, comme le CPE. Ils ont été portés par cette espèce de vague et ils se sont dit « ça peut pas s'arrêter », puis tout d'un coup, ils se retrouvent gros gens comme devant, parce que c'est les derniers radicaux à essayer de faire quelque chose.
En fait, ces collectifs, ils se sont rencontrés pendant leur lutte, ils se sont créés pendant
souvent,
leur lutte.
Souvent, c'est pendant le cas, j'ai l'impression, lutte. Parce qu'ils parlent pas toujours... des conditions de la création du collectif. Ils en parlent de temps en temps, mais pas systématiquement. Parfois, ils parlent juste de la lutte qu'ils mènent du point de vue, d'un point de vue particulier. Par exemple, il y a un groupe qui a, ils ont mis l'argent en commun. Bon, ils décident.
C'est intéressant, ça.
Ça, c'est super intéressant, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, des tas de niveaux. Et donc, là où je les trouve assez intéressants et assez honnêtes, c'est qu'ils ne cachent pas les ambiguïtés du projet. Parce qu'ils disent, finalement, nous, on n'est pas forcément dans une optique de lutte directe contre le capitalisme, puisqu'on est des salariés.
Ils sont salariés. Alors, combien ils sont au départ?
Alors, ils sont, je ne sais plus, je crois qu'ils sont peut-être une dizaine.
Est-ce qu'ils sont le même nombre au départ qu'à la fin?
Non, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans ce collectif-là. Il y a des gens qui partent.
Il y a d'autres gens qui arrivent.
Et le principe de base, c'est que l'argent qu'on met dans la cagnotte, il est dans la cagnotte, il n'en sortira plus. Donc même si on part, on ne le retrouve pas.
Et ils ont tous des revenus à peu près similaires, ces gens?
Alors en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ils disent, on est dans le système du salariat, ça on ne peut pas trop y échapper. Par contre, qu'est-ce que ça nous permet, nous, de vivre comme ça? C'est que si, par exemple, il y en a un d'entre nous, et j'ai l'impression qu'il parle d'expérience vécue, se fait larguer par son copain, sa copine, et qui déprime complètement, il peut passer 6 mois sans travailler, parce que les autres le font, et puis il a de quoi vivre.
Et ça, ce sont des cas qui ont été prévus de façon formelle quand ils ont formé leur collectif, ou ils improvisent quand ça se présente?
Ils le disent pas forcément, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de laisser les choses relativement souples.
Parce que ça serait intéressant à l'heure des contrats prénuptiaux.
Oui.
Quand on voit des gens qui planifient tout avant de se marier, eux, on peut se demander s'ils ont planifié avant de se mettre tous ensemble à 10.
Ça, ils ne le disent pas. Il semble que tout ne soit pas planifié, puisque de fait, c'est un groupe qui est voué, dans une certaine mesure, à évoluer. Et donc, ils ne peuvent pas imposer des règles anciennes à des nouveaux. Enfin, oui, en tout cas, ils n'en ont pas l'intention. Mais l'idée, c'est qu'ils ont un budget. Et qu'ils essaient de voir à peu près de combien ils ont besoin d'argent pour assurer sur les prochains mois. Et ensuite, ils travaillent ensemble. Alors au début, ils ont collectivisé aussi, en fait, ils le disent pas comme ça, mais en fait, ils ont aussi collectivisé le travail. Et c'est parti d'un gars qui livrait des pizzas, qui avait un patron assez sympa, il faisait ça au black, il livre ses pizzas. Et puis un jour, il peut pas venir, mais il dit au patron, j'ai un copain qui pourrait le faire à ma place, un copain du collectif qui avait communisé l'argent. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont retrouvés assez tout vite sur ce poste, à bosser alternativement pour livrer les pizzas.
Donc ils travaillaient un septième, un huitième dedans, en fait.
C'est ça.
C'est pas mal.
C'était plutôt pas mal, ouais. Et à partir de là, ils ont décidé de faire quelque chose, en fait, de... Alors, et c'est là que les ambiguïtés du projet sont intéressantes, parce qu'ils ont presque monté une entreprise, en fait.
Ah oui.
Maintenant, voilà, on va vendre notre force de travail de manière collective. C'est-à-dire qu'on propose, quand on se propose pour un boulot, c'est où il nous prend tous ensemble, où il nous prend pas.
C'est intéressant parce qu'il y en a jamais, ils sont jamais tous en arrêt maladie en même temps.
C'est ça.
C'est super rentable en fait.
Ah, ça peut être, on peut le voir comme ça aussi, c'est clair. On peut le voir comme un système très très efficace.
Enfin, pour un patron en tout cas, c'est super rentable.
Bah, ça peut l'être. Alors, mais après, tu vois, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils bossent dans le milieu de l'art et ils font de l'accrochage de tableaux. Maintenant,
là.
Ouais. Enfin, maintenant, si le truc existe encore, on ne sait pas, parce qu'en plus, bon, c'est anonymé, bon, parce que c'est pas toujours légal.
Ouais, c'est normal.
Et le principe, c'est que donc, bah, évidemment, ils sont obligés d'individualiser dans une certaine mesure le processus. Parce que par exemple, là, quand le patron, quand leur employeur leur file du fric, il faut bien qu'ils le versent sur un compte. Et ils n'ont pas fait un compte, une espèce de compte anonyme d'entreprise, ils ont toujours des comptes individuels.
Alors qu'ils auraient pu, parce que finalement, ils n'étaient pas si loin que ça.
Ouais, mais je pense qu'ils refusent d'entrer dans ce jeu-là, parce qu'après, ça veut dire qu'ils vont par exemple payer des impôts d'entreprise, ou je ne sais pas quoi. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient du tout envie de rentrer dans cette logique-là, qui peut-être pourrait les faire partir là où ils n'ont pas envie d'aller.
Après, le patron, c'est intéressant aussi, parce qu'il n'a pas un interlocuteur, il en a 7 ou 8.
Oui.
Donc il n'y a pas une personne qui peut ne pas être d'accord en face de lui, il y en a potentiellement 7 ou 8.
Il a un bloc.
C'est compliqué.
Ça peut devenir compliqué.
C'est bien, mais c'est compliqué.
Ensuite. Surtout que, bon, ils vont. C'est en gros, vous nous prenez tous ou vous ne nous prenez pas. Mais, bon, bah, là, donc, ils font leur boulot d'accrochage de tableau. Ce qui leur assure un revenu très constant. Et c'est rigolo. Alors, dans le livre, ça, c'est dans la rubrique, je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans la rubrique désertion. C'est-à-dire que. Il les présente. C'est pas proprement parler un truc de lutte. C'est quelque chose qui cherche plutôt à modifier la façon de vivre.
Oui, créer quelque chose à côté, en fait. Ouais. Ils ne vont pas essayer de détruire, mais plutôt de créer en parallèle.
Ouais. Et alors après, avec toutes les ambiguïtés que ça suppose, évidemment. Mais là aussi, je trouve que ce que je trouve pas mal dans ce livre, c'est qu'il présente toutes ces tentatives qui sont très, très hétérogènes, qui pourraient se critiquer les unes les autres. Mais eux, ils présentent... ils le présentent... Parfois, ils montrent aussi les limites, ils soulignent les limites. Que ce soit d'ailleurs ceux qui sont interviewés.
Les personnes elles-mêmes soulignent les limites de leur propre expérience, de leur propre création.
Et sans en même temps jamais tomber dans une espèce de critique dogmatique du type c'est pas bien parce que ça respecte pas tel et tel principe.
C'est plus ça a pas marché parce que.
Oui, c'est plus on a rencontré tel problème, est-ce qu'on l'a résolu ou pas. Et on n'est pas du tout dans une espèce de logique partisane, dogmatique, du « il faut faire ça parce que ça va nous mener au lendemain qui chante ».
Et alors, est-ce qu'ils pensent, par exemple, à une généralisation de leurs expériences? Est-ce qu'ils pensent que d'autres personnes pourraient avoir envie de faire pareil? Parce que moi, cette histoire de l'argent, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'ils pensent que d'autres personnes pourraient vouloir les contacter pour faire pareil, voire s'associer à eux?
Alors là, dire « il », c'est super compliqué, même si je l'ai dit aussi, parce que « il », c'est un collectif qui ne dit pas son nom, avec des tas de gens qui ne disent pas toujours leur nom, donc c'est une espèce de masse.
C'est un groupe de « il », en fait.
C'est un groupe de « il » ou de « elle », très très variable. Alors, le collectif Mauvaise Troupe a, c'est clair, l'ambition de transmettre quelque chose. C'est-à-dire, quand je disais « c'est un livre d'histoire au pluriel », chez eux, il y a l'idée que l'histoire avec un grand « H », a tendance justement à complètement balayer et occulter, de par sa logique même, ses expériences minoritaires, ses expériences moléculaires, pour parler comme Deleuze, parce qu'il parle souvent comme Deleuze, ces petits trucs.
Qui les grandes expériences, c'est la désillusion de toute façon.
C'est ça. C'est-à-dire que la grande histoire, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Elle va nous montrer, elle va dire, ah oui, ben là, les jeunes, ils se sont révoltés, les salariés les ont rejoints, et puis à la fin, ils ont perdu. C'est toujours, on pourrait dire ça comme ça, c'est que la grande histoire, c'est toujours des récits de défaite des mouvements populaires.
C'est souvent le cas, ouais.
Ce qui est souvent le cas. Et eux, ce qu'ils veulent montrer, et d'ailleurs, il y a certains interviewés qui rebondissent vachement là-dessus, hein, comme un collectif d'écrivains italiens, qui écrivent sous un pseudo, les Wu-Tang. Wu-Ming, je crois que c'est Wu-Ming.
Mais sinon, c'est de la musique.
Oui, c'est Wu-Tang, clan, sans ça. C'est ça. Et c'est Wu-Ming, je crois, oui. Et donc, leur idée, c'est aussi de transmettre tout un tas d'histoires qui... Il y a José qui se moque de moi dans la régie, là. Voilà. Il me pointe du doigt et il prend son bonnet d'âne. Bon, je suis foutu. Je ne sais pas si je vous reverrai un jour, chers auditeurs. Donc, ouais, l'idée, c'est aussi de transmettre, finalement, des récits de lutte qui, dans une certaine mesure, continuent de marcher. de montrer que la lutte continue, que les gens ne s'arrêtent pas forcément, que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas partout, qu'il n'y a pas un grand mouvement qui soulève les consciences, que malgré tout, dans les interstices, il y a toujours des luttes, ça continue. Quoi.
Mais justement, quand on fait des luttes comme ça, des fois, on a un petit peu envie de soulever les consciences, on a un peu envie qu'il y ait d'autres personnes qui fassent la même chose, c'est un peu encourageant aussi.
Ils le font, ça aussi, ça dépend. Tu vois, ceux qui, par exemple, ceux qui ont communisé l'argent, c'est, je pense que c'est quelque chose qui a, il y a un côté très radical, parce qu'on ne touche pas au fric comme ça dans notre société. Mais en même temps, d'après ce qu'on lit dans l'interview, parce que l'interview, elle est aussi centrée sur cette question du fric communisé. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils font à côté. Mais dans l'interview, en tout cas, on n'a pas l'impression que ce soit des militants politiques à côté. Ils ont décidé de vivre autrement, mais après, ce n'est pas pour autant qu'ils vont forcément militer politiquement, tu vois, essayer de convaincre d'autres personnes de noter le mode de vie. Mais en même temps, le livre transmet cette expérience et peut donner des idées.
Non, mais c'est aussi pour continuer à donner un souffle à l'expérience aussi, éventuellement.
Je pense... ouais, il y a de ça, c'est-à-dire...
Je sais pas, ou alors ils sont contents de vivre leur expérience, que ça soit pas spécialement étendu et que ça fonctionne très bien.
Il y a de ça aussi, je crois, quand même, malgré tout, ça fonctionne, tant mieux. Mais le livre, malgré tout, tout le livre, ils le disent dès le départ, est conçu comme aussi transmettre ses expériences de lutte. On sait pas ce que ça donnera, cette transmission. Peut-être que des gens les reprendront, peut-être pas, peut-être qu'ils les, sans doute d'ailleurs même que s'ils les reprennent, ils les modifieront, qu'ils les feront à leur sauce. Mais l'idée c'est qu'elles soient pas en quelque sorte, qu'elles disparaissent pas sous le, comment dire, sous le TGV de l'histoire officielle.
L'idée c'est que quelqu'un en ait parlé à un moment donné, c'est ça ?
Oui, en partie, et puis il y a un côté exemplaire, je crois. C'est-à-dire, t'as des tas de récits par exemple où. Où des gens racontent comment dans une manif les flics ont reculé alors qu'on nous les présente comme invincibles et ont parfois reculé pendant 3-4 jours, parfois même plus. En Italie, il y a eu des trucs complètement dingues dont on parle jamais.
Ça, c'est les écrivains italiens qui
présentent pas ça que, non, c'est des types qui luttaient contre le forage, qui luttent peut-être encore contre le forage d'une montagne pour faire passer un train entre la France et l'Italie. Et c'est fou comme on ne sait pas ce qui s'est passé en réalité.
On ne sait pas s'ils ont foré réellement ou pas.
Si, ça on le sait maintenant. D'accord. Mais non, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la résistance à ce forage. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques jours où les autorités de l'État italien ont été chassées.
Physiquement chassées.
Chassées. Elles n'avaient plus de pouvoir sur une enclave assez importante. Ils avaient été souvent virés.
Ils étaient très nombreux.
quasiment toute la population, une bonne partie de la population s'y était mise, et ils avaient chassé les officiels, flics compris.
Et du coup, le gouvernement leur avait pas envoyé l'armée.
Le gouvernement n'a pas pu envoyer l'armée, mais ils ont envoyé plus de flics. Et tu vois, ça c'est des récits, t'entends jamais que les flics ont reculé quasiment.
Ah bah non.
On va envoyer une pause musicale parce que ça fait déjà trop longtemps qu'on parle.
Psychologue sans sexologue, nous pouvons enfin nous aider. de cette époque où mes parents me tenaient par la main et ces souvenirs m'évoquent les parfums fraises et chocolat. Ma mémoire suffoque du dilemme de ces deux parfums, car ma famille en tête me choisit celui du chocolat. Je me souviens de cette époque, car la fraise est mon vrai parfum. On a fait une catastrophe et aujourd'hui encore je ne sais toujours pas pourquoi. Ma famille, pour sa descendance, me condamna au chocolat. Ma famille, pour sa défense, me cacha l'autre parfum. Des printemps, j'en avais cesse, quand m'est revenu le goût de la fraise. Et aujourd'hui, passé les vins, je sais qu'il existe mille et un parfums. Époque où mes parents me tenaient par la main et ces souvenirs m'évoquent les parfums frais et chocolat. Ma mémoire suffoque du dilemme de ces deux parfums, car ma famille en donne me choisit celui du chocolat. Je me souviens de cette époque, car la fraise est mon vrai parfum. On a fait une catastrophe et aujourd'hui encore je ne sais toujours pas pourquoi. Ma famille, pour sa descendance, me condamna au chocolat. Ma famille, pour sa défense, me cacha l'autre parfum. Des printemps, j'en avais cesse, quand il revenait le goût de la fraise. Et aujourd'hui, passé les fins, je sais qu'il existe mille et un parfums.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, pour la deuxième partie de l'émission Jeudi Noir, donc avec José en régie, Sophie en face de moi, et moi-même, Michel. Donc nous vous parlons ce soir d'un livre édité par l'Éclat, c'est Constellation, donc Trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle, un bouquin assez gros, mais très intéressant à lire. Et donc, je vous présentais avec Sophie tout à l'heure un peu le projet du bouquin, et puis une expérience en particulier, l'expérience de comment essayer de collectiviser l'argent avec toutes les contradictions que ça peut supposer, puisque c'est quelque chose qui est à la fois assez radicalement anticapitaliste, individualiste, et qui en même temps joue plus ou moins le jeu, puisque c'est les salariés qui achètent une maison en collectif, bon, etc., etc. Alors, je voulais préciser, avant d'aborder une autre expérience, que le collectif Mauvaise Troupe ne prétend pas du tout présenter une synthèse unifiée et complète des formes de vie et de lutte révolutionnaire.
Mais est-ce que l'idée, du coup, c'est que chacun peut choisir quelque chose qui lui plaît, une expérience qui lui plaît?
Oui, du type « faisons tous ce qui nous plaît ». Non, je crois
par
pas.
Exemple.
Je pense que c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'il s'agit plutôt de laisser, même si ça peut y ressembler, le champ ouvert. Parce que dans ce qui nous plaît, il peut aussi y avoir des choses qui impliquent de perpétuer des formes de domination, de perpétuer des formes d'exploitation. Ça peut nous plaire aussi. Enfin, y a des, voilà,
oui.
Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui aiment le pouvoir, l'argent, et tout ça. Parce que voilà, on peut trouver un plaisir pervers à dominer les autres. Donc... Alors, je pense qu'il ne s'agit pas de dire tout est bien. Il s'agit de dire, en quelque sorte, d'élargir l'imagination. Ou du moins de montrer qu'il y a tout un tas de choses possibles. Tout un tas de choses possibles, même si l'espoir d'une grande révolution, est un peu mort.
Mais alors, est-ce que du coup... Le fait qu'on se mette chacun de son côté à créer des initiatives comme ça, qui deviennent personnelles au collectif, si on peut dire, est-ce que du coup ça tue l'espoir d'une grande révolution? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est intéressant?
Ça c'est compliqué. J'en ai aucune idée, en vrai, on va dire vrai. Je pense que ça maintient quand même des pratiques de lutte.
Ça n'empêche pas.
Et puis après, ben, y a aussi d'autres expériences qui sont très très intéressantes. Tu parlais d'entre-soi au début de l'émission. Et justement, il y a un témoignage d'un collectif de femmes qui ont lutté pour le logement. Et c'est un témoignage que je trouve extrêmement intéressant parce que ce collectif part d'une rencontre un peu fortuite. De deux militantes, alors je sais pas si elles sont lesbiennes ou pas, enfin si elles sont dans des luttes assez marquées, assez révolutionnaires, assez libertaires, qui impliquent aussi les dominations de genre, les dominations d'imposition d'identité sexuelle. Et elles tombent dans un quartier de leur ville, sur un vieil Algérien qui leur dit... Et puis elles luttent aussi pour le logement, parce que c'est des squatteuses, elles n'ont pas forcément beaucoup d'argent, bref.
Elles se connaissaient avant d'être militantes, en fait,
ça, l'histoire ne le dit pas.
On ne sait pas.
Et elles tombent sur un vieil Algérien qui leur dit, mais j'ai une cousine, puis je connais aussi une autre femme, elles sont dans des logements pourris, depuis plus de 10 ans, des trucs humides, des trucs insalubres, et ce serait bien que vous alliez les voir.
Alors, donc elles y sont allées.
Et c'est intéressant, parce qu'en plus, tu vois, ça part d'un homme. Qui leur dit, alors, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le côté, comment dire, elle montre bien cette espèce de mélange incroyable que quand tu t'y colles, tu sais jamais d'où ça va venir, en fait.
Bon, c'est un homme, ça aurait pu être une femme, ce
peut-être. Oui, mais en même temps, il ajoute, et ça c'est raconté, l'une des militantes le raconte, il dit, mais il faut pas, par contre, que vous leur donniez rendez-vous au café parce qu'elles voudront pas venir. Il faut que vous leur donniez rendez-vous ailleurs. Et donc, elle rencontre ces femmes qui sont qui ont une 50, 60 ans, je ne sais pas exactement. Et là, elles ne sont plus du tout dans un entre-soi révolutionnaire. Parce que les femmes qui sont en face d'elles n'ont pas de pratique militante. Elles essaient de vivre au jour le jour dans des conditions difficiles.
Puis surtout, elles sont radicalement différentes.
Et puis, elles sont très, très, très différentes. Voilà, t'imagines, t'as la squatteuse, tatouée, qui a des idées ultra-gauche, qui rencontre une nénette qui est là. bon, je sais pas, on ne connaît pas trop son passé, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait auparavant, tout ça, mais bon, en tout cas, elle est dans une situation difficile.
Mais alors, les deux côtés étaient disposés à se parler, quand même.
Les deux côtés étaient disposés à se parler. Alors, elle raconte que ça n'a pas été forcément tout de suite facile. Et après, elle tombe aussi, c'est les militantes qui le racontent. Hein.
C'est les militantes, les deux du début ?
Ouais. Et c'est elles qui le racontent. Alors, elles étaient plus que deux. Il y avait, c'est elles qui ont commencé le truc, d'après ce que j'ai pu comprendre, ou d'après mes souvenirs, qui peuvent être erronés. Mais elles vont toutes se rencontrer. Et elles vont commencer à lutter, justement, pour améliorer la situation de chacune en matière de logement.
Et elles sont toutes partantes pour l'expérience, dès le début.
Non,
c'est compliqué, quand même.
Non, mais il y a tout un processus d'apprivoisement mutuel, d'apprendre à se connaître. Parce qu'au début, les nénettes qui sont dans des logements insalubres, qui ont 50-60 ans, qui ne sont pas forcément des squatteuses branchées, bidule, machin chouette, petites bourgeoises, parce qu'elles le disent.
Elles-mêmes se définissent comme des petites bourgeoises branchées, squatteuses.
Non, pas tout à fait ça, mais elles disent quand même que c'est un peu leur milieu d'origine.
Ouais, on comprend vaguement.
Elles sont conscientes aussi de ça. Et c'est pas faux. Enfin bon, ils disent voilà, on était face aussi à l'étrangeté. Mais l'inverse était vrai. Et au début, il y a aussi une part d'incompréhension des deux côtés aussi, sans doute. Genre, par exemple, les deux femmes là, qui étaient dans des logements insalubres, les deux Algériennes d'origine, disent pourquoi vous voulez nous aider ? Vous dites que vous êtes contre la charité, pourquoi est-ce que vous voulez nous aider ?
Oui, d'ailleurs, c'est une bonne question, pourquoi vous voulez les aider ?
C'est une super bonne question. Et c'est la militante qui rappelle ça. Elle dit, ils nous ont posé cette question-là, et c'est vrai que c'était troublant.
Et elle répond, quand elle dit...
Je suis pas sûr qu'elle ait de réponse, je suis pas sûr qu'il y en ait.
Pourquoi vous voulez nous aider ? C'est la méfiance du début, après.
Pas seulement. C'est aussi une incompréhension sincère, je crois. Parce que quand cette question est posée, de toute évidence, elles se connaissent déjà. Elles ont déjà agi ensemble, elles ont déjà fait des tas de trucs ensemble. Et c'est une question sincère du type... en gros, vous dites que vous n'aimez pas la charité, vous dites que vous n'êtes pas là-dedans. Et puis en même temps, vous vous battez... vous luttez de façon extrêmement tenace pour nous aider. Quel est votre intérêt là-dedans ?
Mais alors, est-ce que les femmes algériennes, elles avaient l'impression que les deux militantes du début étaient dans une situation aussi précaire que la leur ? Moins précaire ?
Au début,
comment
ça
les percevaient ?
Trop, je crois. Alors qu'en fait, la situation était précaire de tous les côtés.
Ouais.
Les deux militantes...
Les deux militantes, elles devaient s'en rendre compte, de toute façon.
Elles avaient eu aussi des problèmes de logement, puisque c'était des squatteuses, elles se faisaient plus ou moins virer. Enfin bon, c'était pas facile. C'était facile d'aucun côté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont vraiment réussi à agir ensemble.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ?
Après, il faut le lire parce que c'est rigolo. Mais parce que là, je vais en faire un résumé assez pauvre. Mais il y a eu plus, c'était une espèce de jeu de qui accélère et qui ralentit. C'est-à-dire que les militantes d'extrême gauche ou anarchistes, se trouvent face à ces femmes et puis elles font une première réunion et puis à un moment, il y en a une qui dit bon, là, on a assez parlé, maintenant, il faut agir.
C'est qui est le plus révolutionnaire, en fait.
C'est quasiment ça. Et au début, elle se retrouve dépassée par ça, par cette femme algérienne.
Parce que c'était pas elle les plus révolutionnaires.
Pour le coup, non. À ce moment-là, non. Après, ça pouvait changer. Mais à ce moment-là précis, non. Parce que, à un moment, il y a une de ces femmes algériennes qui dit « Bon, mon logement est pourri, mais avant, j'avais presque rien, j'avais encore plus pourri, et je l'ai obtenu il y a 10 ans, après une grosse mobilisation. »
Donc elle savait que ça avait marché d'une manière ou d'une autre.
C'est ça, elle savait que ça avait marché et elle dit ils m'ont donné ça pour nous calmer et puis après ils m'ont laissé pourrir dans mon nouvel appart qui était un peu moins pourri que le
pendant
précédent.
Pendant 10 ans quand même.
Ouais, pendant 10 ans. Elle était toute seule.
Ouais.
Il n'y avait pas de collectif et donc pas d'action possible. Donc après elles se mettent ensemble et puis elles agissent quasiment tout de suite.
Alors il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose parce que alors les résultats elles en parlent pas trop mais parce qu'elles analysent plutôt le processus. Mais c'est assez intéressant parce qu'elles disent qu'en fait elles utilisent alors ça aussi ça m'a un peu gêné et puis en même temps je vois bien la stratégie c'est qu'elles utilisent des trucs quasiment typiquement féminins si on peut dire. Je sais pas s'il y a du typiquement féminin qui existe mais en tout cas dans la société.
Ah bah culturellement si.
Culturellement il y a des représentations qui sont qu'on va dire typiquement féminines. Et c'est par exemple, elle déboule avec des gosses, limite en sortant de la crèche, après une espèce de petit taf. Elle déboule dans les conseils municipaux, dans des réunions, et elle déboule en force.
Ah non, mais ça, c'est plutôt bien, en fait, elles utilisaient le sexisme de leurs adversaires.
Oui,
fait.
C'est une forme de judo politique.
C'est plutôt bien. Non, c'est bien.
Oui, mais c'est intéressant comment elles utilisent ça. Tu vois, elles y vont avec leurs gosses, avec leur sac à main. Ils disent leur sac à main. Enfin, et finalement, le maire se retrouve face à une bande de nénettes.
Avec des gamins, il peut rien dire, c'est pas
c'est
possible.
C'est ça, il est complètement coincé. Parce qu'elles le prennent à un niveau où... il ne peut pas trop réagir. Et en particulier, je pense que ça, c'était intéressant, justement, par rapport aux représentations sociales de la femme, où, à un niveau où la violence est très, très difficile à faire rentrer en jeu.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'à moins, à moins de vraiment sans scrupule, tu ne lâches pas les flics sur des femmes avec des gosses.
Non, ça, c'est pas possible.
Ça s'est déjà fait. Alors, ça, c'était très possible, ça s'est fait des tas de fois.
Mais, maintenant, plus tellement, quand même. Non, c'est un peu compliqué.
Ça dépend des pays. Je pense qu'en France, c'est un peu plus compliqué.
C'est compliqué. Mais... maintenant, on amène les poussettes dans les manifs. Toutes les manifs.
Oui, mais ça va peut-être dire quelque chose sur les manifs et pas sur les flics. C'est pour une expulsion de squat, par exemple, les flics ils n'hésitent pas à traîner les gosses et les mères. Hein. Donc, surtout si c'est des Roms et qu'on s'en fout. Mais là, à mon avis, au niveau municipal, quand tu as affaire à des électrices qui ont des gosses et qui ont peut-être de l'audience, parce qu'elles viennent de milieux différents, tout d'un coup, ton action revendicative peut être nettement plus affirmée. Sans forcément passer à la violence physique, mais sans que non plus ce soit facile d'utiliser la violence physique contre toi. C'est-à-dire que voilà, t'arrives avec ton gosse dans les mains face au maire, bah, il est un peu coincé.
Oui, puis en un sens, elle les met face à une vraie réalité aussi. C'est-à-dire
qu'elles
ont leur gosse dans les mains pour la manif, mais elles ont leur gosse dans les mains le reste du temps, le reste de leur vie aussi.
Hmm. Bah oui. Et puis si elles sont dans un logement pourri avec un gosse, bah,
ça veut vraiment dire quelque chose.
Ça veut dire quelque chose. Et là, le maire ou les autorités qui gèrent le logement sont un peu coincées. Donc elles ont fait des occupations de locaux, elles ont fait des interventions sauvages pendant des réunions officielles. Elles ont fait tout un tas de trucs comme ça. Et donc, parfois, elles se sont heurtées à deux, trois problèmes. Les militantes en particulier, c'est du type... là, en fait, on lutte pour améliorer la condition, notre condition, nos logements... En fait, mais on lutte aussi, on pourrait dire qu'on lutte pour que le système soit plus fluide, fonctionne mieux. Alors que nous, le système, on voudrait le foutre en l'air. Et je trouve que c'est une contradiction intéressante du point de vue justement de la militantisme.
C'est-à-dire qu'elles ne foutent rien en l'air, finalement.
Bah oui, au contraire, à la limite, elles aident le truc à mieux fonctionner. Mais c'est compliqué, parce que est-ce que ça veut dire que pour tout foutre en l'air, il faut laisser les gens dans des taudis ?
Ou alors, sauf si tout le monde se met à faire pareil qu'elles.
Aussi. Mais alors ça, c'est plutôt une fiction logique, genre si tout le monde faisait comme.
Voilà. Ou si d'autres, bah,
oui,
forcément
si
tout
d'autres.
Le monde, si d'autres faisaient comme.
Ou si d'autres.
Donc là, ça, peut-être que ça supprimerait pas le système, mais ça lui porterait un coup quand même.
Ça pourrait, en tout cas, oui. Le système,
au lieu de le renforcer, à la limite.
Ça pourrait. Et en tout cas, c'est sûr que c'est très désagréable pour ceux qui le gèrent. Mais en même temps, pas forcément, parce que là aussi, il y a des solidarités inattendues qui s'opèrent. Elles ont pu s'en apercevoir. Il y a d'autres collectifs, d'ailleurs, qui en parlent dans le bouquin.
Alors,
des
on
collectifs
avait quoi
de
comme
squatteurs.
Solidarité inattendue?
Bah, c'est que parfois, en fait, t'as des personnels municipaux qui sont pas forcément très élevés dans la hiérarchie, mais qui trouvent que ceux qui protestent ont raison et qui leur donnent des tuyaux en douce.
Génial.
Du type, ah, là, il y a une réunion à telle heure, là, ils veulent faire ça.
Ils avaient des indics, en fait.
Oui.
À la mêlée.
Par exemple,
c'est
le genre de truc qui peut se produire. Il y a un squat de Grenoble qui dit ça.
Et ça, c'est fréquent ?
Je crois que c'est la briquerie. Je ne sais pas si c'est fréquent, mais c'est mentionné plusieurs fois dans le bouquin.
Oui, c'est que ça doit arriver un nombre significatif de fois.
C'est que ça arrive, je pense que ça arrive quand même un certain nombre de fois. C'est-à-dire que bon, bah, le squat, il prévoyait de les expulser. Enfin, il y avait un projet un petit peu pourri pour exploiter le squat. Et un soir, il y a un type qui tape à la porte du squat à Grenoble et qui leur dit, je bosse à la mairie, j'ai entendu parler d'un projet contre vous.
Méfiez-vous.
Et le collectif de femmes là, dont je parlais, qui luttait pour justement des logements plus salubres, a parfois eu des choses, alors c'est un peu moins marqué, mais des marques de sympathie, des marques de solidarité, parfois plus discrètes. Mais c'est toujours intéressant quand même, parce que...
Ça c'est pas mal, c'est vrai qu'on n'y pense pas.
Ça prouve que ça a des effets aussi, c'est-à-dire... Et puis, tous les gens qui bossent dans les administrations pourries ne sont pas forcément, eux non plus, toujours d'accord avec ce qui se passe. Simplement,
non,
ils ne sont
rassurant.
Pas forcément militants, ils ne sont pas forcément au courant de ce qui peut se produire ou de ce qu'ils pourraient faire.
Donc, mais par contre, c'est bien qu'ils aident quand ils peuvent aider.
Ben, quand ils peuvent, ouais. Après, je ne sais pas si c'est fréquent. L'histoire ne le dit pas. Donc, voilà pour ce collectif. On va vous faire une petite pause musicale.
Tu peux annoncer ce que
tu... Ah oui, José me rappelle... oui, alors... Tout à l'heure, j'ai complètement oublié, je suis navré, je vais me faire taper dessus. Donc vous avez entendu en premier tout à l'heure, pour la première pause musicale, René Binamé. Ça vous le connaissez, j'imagine, on l'a déjà passé, c'est un groupe belge. Et le morceau c'était Où l'on apprend que l'on a tout à gagner. Et ensuite, vous aviez un morceau de Dur et Gay, donc, ou Dur et Gay comme on veut, c'est-à-dire un petit calembour qui s'appelait Mille et un parfums, le morceau. Et enfin Greluchon, le morceau C'est fini. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Pour la troisième et dernière partie donc, de Jeudi Noir, et nous vous présentons toujours le livre Constellation, fait par le collectif Mauvaise Troupe, et qui est sous-intitulé Trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle, et que vous pouvez trouver, enfin qui a été édité par L'Éclat. Alors, vous avez, comme José vient de me le rappeler, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu, donc je vais vous rappeler, je vais vous indiquer quel groupe viennent de passer. Donc, c'était Crête et pas Crête. Donc, pas Crête la fleur, mais on pourrait aussi entendre pas de Crête. Et le morceau, j'essaie de déchiffrer l'écriture de José qui est absolument abominable, c'est Tes peurs inconnues. Donc, c'était pour me venger, José. Voilà, donc nous parlions de constellations. Alors, Donc j'ai évoqué surtout le collectif donc, qui avait communisé l'argent et puis le collectif de femmes qui luttaient pour un meilleur logement, pour la fin des pour sortir des logements insalubres pourris. Mais bon, ici, faudrait pas croire qu'ils font le tour, qu'on a fait le tour en disant ça, parce qu'il y en a des tonnes, des histoires comme ça. Il y a aussi des histoires, par exemple, alors les histoires de squats qui ont pu s'étaler sur un squat pendant plusieurs années avec des tas d'expériences, c'est-à-dire qu'ils ont transformé le squat en lieu d'expérimentation politique, esthétique et autres, ou un squat complètement invraisemblable. Alors là, j'ai plus son nom en tête, mais qui essayait de mélanger le côté politique et le côté artistique avec des interventions, des happenings politiques. Souvent pour perturber les conseils municipaux, avec des déguisements, des distributions de tracts extrêmement rigolos, tout un tas de choses. Une espèce de... Ils foutaient le bordel à la mairie d'une manière magnifique, à tel point que la mairie ne pouvait plus supporter le mot happening.
Et alors, ça, c'était ce qu'ils faisaient, c'était leur truc.
C'était pas seulement pour s'amuser. Il y avait aussi, c'était aussi une stratégie politique pour faire pression sur la mairie afin de garder le squat, pas se faire expulser.
Ça a marché.
Et ça a marché un certain temps.
Donc ils faisaient peur un peu à la mairie en fait.
Oui, parce qu'ils arrivaient à mobiliser aussi et qu'ils avaient des formes d'intervention qui étaient... c'était pas des tracteurs du dimanche sur le marché qui te donnent des tracts édités dans un format illisible, c'était des choses qui étaient beaucoup plus entraînantes, qui étaient beaucoup plus fascinantes aussi.
Ils savaient communiquer.
Ils utilisaient en quelque sorte la une forme de communication radicale, souvent assez décapante et drôle.
Ils arrivaient à s'attirer la sympathie
en partie,
des
oui.
citoyens en partie.
Ça, ils le disent pas trop, parce qu'ils sont aussi vus toujours forcément par une frange de la population, juste comme des punks à chiens qui vont rien apporter d'intéressant. J'imagine en tout cas comme des troubles fêtes, des choses comme ça. Alors il y a aussi tout un tas de réflexions. Alors je passe parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est que ils parlent aussi des free parties. Il y a toute une réflexion dans le livre que je trouve assez intéressante et que je vous invite à aller voir si ça.
Alors, il y a une réflexion sur les free parties.
Oui, il y a une réflexion sur
les free parties. Ils théorisent les free parties ?
Alors, non, c'est pas théorisé, mais on sent qu'ils réfléchissent ça. C'est-à-dire que, est-ce que la fête, qu'est-ce que c'est que la fête aujourd'hui ? Et comment est-ce que les fêtes ont été stérilisées, d'une certaine manière ? Comment est-ce qu'elles ont été rendues complètement inoffensives ?
Un peu aseptisées, en fait.
Aseptisées, ouais. Alors qu'il y a une longue tradition, en quelque sorte, d'interconnexion entre la fête et l'émeute. C'est-à-dire que l'émeute est toujours plus ou moins une fête, et la fête est toujours plus ou moins une émeute dans l'histoire. Et eux, donc, ils réfléchissent là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire une fête, il faut que tu ailles voir limite la mairie, la préfecture, il faut la déclarer. Et donc, il y a tout un tas de gens qui décident de faire des fêtes en free, comme ça. Mais ça a pu prendre des formes totalement émeutières. Alors, du type en Angleterre, où ils ont bloqué le périph' londonien, ce qui était un exploit, parce que le périph' londonien, c'est pas deux, trois voies comme en France.
Comme tu te prépares à l'avance quand
c'est
tu fais
six
ça,
voies.
Quand même.
Et donc là, c'est une préparation mortelle de plusieurs mois, où ils ont tout préparé, ils ont tout prévu, et ils ont fait tourner en bourrique la police londonienne. Un truc de fou.
Et donc, ils ont fait la fête, en fait, sur le périph'.
Ils ont fait la fête sur le périph'. Pour le bloquer, et puis après ils ont navigué, ils sont allés dans la city, puis ils ont foutu la merde à la bourse.
C'était la fête.
C'était une grosse fête, mais une fête à la limite de l'émeute.
Mais alors, avec tous ces invités, il n'y a personne qui a rien dit à l'avance quand même ?
Il semble que non. Il semble que c'était quelque chose d'extrêmement bien organisé, ils avaient très très bien prévu leur coup, parce que c'est vrai que quand on prépare un événement pareil plusieurs mois à l'avance, les risques de fuite sont énormes.
Ouais.
Mais eux, ils avaient préparé plusieurs plans, en fait, en cas d'échec.
Plan B, plan C, plan
voilà,
B.
Exactement, et c'était d'une minutie incroyable, et ça a marché, c'est ça le plus fou. Il y a aussi à Marseille, il y a un récit complètement jubilatoire, je trouve, de carnaval qui se transforme, donc carnaval, des gens arrivent, commencent à faire la fête, portent des masques, distribuent des masques, et détruisent toutes les caméras de surveillance sur leur passage, puis après se dispersent. Bon,
Et c'est tout. Ils se font pas arrêter après.
Comme ils sont anonymes, c'est difficile. Alors j'imagine qu'il y en a certains qui sont arrêtés de temps en temps, mais parce que la police veille. Mais
il y a pas que les caméras, il y a des policiers aussi.
Oui, il y a des choses, mais bon. Et c'est des formes comme ça de choses. Alors ça, c'est les trucs les plus revendicatifs, je dirais. Mais bon, je trouve ça quand même. Bon, les caméras de surveillance, on sait qu'elles coûtent très cher et qu'elles sont
extrêmement, pas et qu'elles
sont extrêmement inefficaces. Bon, elles doivent être utiles une fois sur mille pour quelqu'un que bon, on n'a pas forcément envie de croiser, mais qui porte une mitraillette ou un truc comme ça. Mais bon, globalement, elles servent à rien, à part coûter très très cher et puis rassurer les citoyens.
Ça rassure.
Ça rassure peut-être. Va savoir. Alors, où ça te fait peur parce que tu te dis qu'il y a quelque chose à surveiller.
C'est donc... toi qui es en train d'être surveillé, si ça se trouve.
J'y crois pas trop à ça. Parce non. Que... non, parce que de toute façon, il y a tellement de caméras qu'il n'y a pas assez de gens, on ne peut pas payer assez de gens pour,
ils les regardent pas.
Pour regarder. Donc, la plupart des bandes se sont remisées en cas de plainte s'il s'est passé quelque chose de vraiment grave.
Donc, autant faire la fête et aller toutes les casser, en fait, finalement.
Je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit. Je sais pas. Franchement.
Il y avait une idée derrière ça ?
Je crois pas. Je sais pas, ils le disent pas, parce que c'est juste la description d'une fête qui tourne plus ou moins à l'émeute. Après, je suis pas sûr que ce soit une forme d'action efficace, que ce soit quelque chose à recommander, j'en sais strictement rien. Mais.
Ils disent pas s'ils l'ont refait.
Non, c'est non. Juste. Voilà, c'est une fête comme ça qui se produit. Alors finalement, pour conclure, et laisser à José le temps de passer un petit morceau de musique, donc, qui sera Betty Cyclope, Sombres Histoires. Il me semble que. Si on peut se dire que si une des grandes forces du pouvoir établi, c'est de nous faire croire qu'il est invincible, je trouve que ce livre essaie de nous montrer en quoi, ben justement, on peut le vaincre ponctuellement.
Puis c'est un côté jubilatoire aussi, quand même.
C'est clair.
Un peu.
Ben c'est sûr, ça fait plaisir. Voilà, donc ben moi je vous le recommande. C'était Constellation, le livre Trajectoire évolutionnaire du jeune 21e siècle, dans le collectif Mauvaise Troupe, aux éditions L'Éclat. Voilà, à dans deux semaines. Oui, le site internet me rappelle José, donc vous pouvez trouver cette vous pouvez retrouver cette émission sur Gurdulu, vous tapez Gurdulu, c'est gurdulu.org, et puis vous tapez Jeudi Noir et vous trouverez ça.
Yeah. prend du plaisir. Le meilleur, c'est d'imaginer le pire. Les autres sont là pour croiser les doigts. Moi, je verse des larmes sur l'avenir